Pendant plus d'un mois, la situation aux États généraux reste bloquée. 17 juin 1789, le tiers-État proclame l'Assemblée nationale. Le tiers-État refuse de se constituer en ordre séparé selon l'ancien système, une voix par ordre. Il souhaite une voix par député et que les deux autres ordres, clergé et noblesse, se joignent à lui. Face à leur réticence à s'unir à eux, excepté quelques membres du clergé, le tiers-État, considérant qu'il représente plus de 96% des Français, proclame l'Assemblée nationale le 17 juin 1789. 20 juin 1789, le serment du jeu de paume, acte fondateur de la démocratie française. Le roi rejette le vote par tête et cette nouvelle assemblée. Il fait fermer la salle des menus plaisirs à Versailles, où se réunissent les États généraux. Le tiers-État se réfugie alors dans une salle de jeu de paume, ancêtre du tennis. Jean-Sylvain Bailly prend la parole et déclare: Faisons le serment de ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides. Tous les représentants prêtent serment, sauf un. Ce moment important est ce qu'on appelle le serment du jeu de paume. C'est la fin de l'Ancien Régime. Le 22 juin 1789, 149 représentants du clergé rejoignent l'Assemblée nationale. La noblesse refuse de s'associer, sauf deux membres. Le 23 juin 1789, Louis XVI réunit les trois ordres pour casser les décisions de l'Assemblée nationale. Necker n'y assiste pas, marquant sa désapprobation. Le roi expose ses volontés et déclare: Nul, illégal, inconstitutionnel, les décisions du tiers constitué en Assemblée nationale. Il ordonne le maintien des trois ordres et veut qu'ils restent distincts. À la fin de la séance, il ordonne aux trois ordres d'évacuer la salle. Je vous ordonne, messieurs, de vous séparer tout de suite et de vous rendre demain matin dans les chambres affectées à votre ordre pour y reprendre vos séances. Le roi se retire, puis les représentants du clergé et de la noblesse s'en vont docilement. Seul, le tiers va rester pendant près d'une heure assis, défiant le pouvoir royal. Le marquis Dreubrézé, maître de cérémonie, vient alors leur demander de s'en aller. Vous avez entendu, messieurs, l'ordre du roi. Bailly, le président de la nouvelle Assemblée nationale, se tournant vers les représentants du tiers. Il me semble que la nation assemblée ne peut recevoir d'ordre. Et Mirabeau ajoute: Allez dire à ceux qui vous envoient que la force des baïonnettes ne peut rien contre la volonté de la nation. Cette célèbre réplique de Mirabeau, retranscrite de différentes façons au cours des siècles, est devenue pour tous les Français: Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Le marquis Dreubrézé informe le roi de l'événement. Réponse du roi: Eh bien, foutre, qu'il reste. Le 25 juin, 47 représentants de la noblesse rejoignent l'Assemblée. Deux mutineries surviennent dans deux compagnies de gardes françaises à Paris. Le 26 juin, le roi fait appeler autour de Paris trois régiments d'infanterie et trois régiments de cavalerie stationnés dans l'est de la France. Le 27 juin, Louis XVI, la mort dans l'âme, demande aux deux ordres, son fidèle clergé et sa fidèle noblesse, de s'unir à l'Assemblée pour y gérer sa marche. Le 30 juin, le peuple de Paris délivre des soldats des gardes françaises détenus pour insubordination à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Le 1er juillet, le roi appelle à Paris le régiment suisse en garnison à Metz. 1er 5 juillet, violentes émeutes à Lyon. 3 juillet, Monseigneur Lefranc de Pompignan, ancien député du clergé, est élu président de l'Assemblée nationale à la place de Bailly. 6 juillet, L'Assemblée nationale élit un comité de la Constitution de 30 membres. Premier travail, préciser les lois de la nation et du roi, puisqu'à ce moment de l'histoire, les Français semblent s'orienter vers une monarchie constitutionnelle.